Des livres RMC, Fred Hermel.
Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans le 44e épisode du podcast littéraire de RMC, auquel je vous invite respectueusement à vous abonner. Il sait nous faire voyager au sens propre comme au sens figuré. Après un quart de siècle, le fameux Guide du Routard, il vient de débuter une nouvelle étape professionnelle chez Voyageurs du Monde. Mais c'est pour son nouveau livre qu'il monte sa tente chez nous le temps d'une émission. Gavins Clemente Ruiz et son roman Le Café des Rêves, qui vient de sortir aux éditions IXO, sont aujourd'hui mes invités. Bonjour Gavins.
Bonjour, comment ça va Fred?
Mais ça va très bien, je suis ravi parce que parfois on s'est croisés dans la vie comme ça, à des heures indues.
Ah ouais, au petit matin.
Au petit matin, nous ne revenions pas de boîte, nous allions travailler.
On bossait.
Alors je vais être d'une banalité déconcertante. D'où vient ce fabuleux prénom Gavins?
Ah,
vous êtes bien entendu le seul Gavins que je connaisse.
Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y en a qu'un. Alors en fait, c'est Gavin, le vrai prénom, c'est un prénom écossais. C'est Gauvin, en fait, dans la table ronde. Et mon père a eu la coquetterie d'ajouter une apostrophe, et donc ça fait Gavins. Et c'est unique. C'est unique. Ça fait 48 ans que je le porte, là, sur mon sac à dos, mais ça va.
Moi, je me sens vous distinguer par cela, et pas par cela.
C'est vrai qu'il n'y en a pas deux. D'ailleurs, sur la couverture, remarquez qu'ils ont mis le prénom en plus gros que le nom. C'est rigolo, non?
C'est vrai.
Ça veut dire qu'on connaît plus par mon prénom.
Pour vos deux noms de famille, c'est plus facile, hein, Clemente Ruiz, pour moi, hein, moi qui ai passé 30 ans en Espagne. Parce que, justement, de l'Espagne il s'agit. Un village d'Andalousie est un des personnages essentiels du roman. Pourquoi?
Complètement, Clemente Ruiz, en effet, je suis un peu d'origine espagnole et belge aussi, mais j'ai choisi la Belgique. J'ai choisi l'Espagne pour parler de ce roman. L'idée, c'était de repartir un peu à l'origine et d'aller voir un peu le village où vit mon père aujourd'hui. Il est parti revivre dans le village, près du village natal de mon grand-père espagnol qui a fui le franquisme et qui a franchi les Pyrénées le 3 février 1939, ce que je trouve complètement fou quand on y pense avant d'aller dans les camps et d'arriver en France. Et
dans les camps du côté de Bordeaux, etc.
Perpignan, Gourdes, etc. Il est monté au plus haut pour fuir et donc il est allé en Normandie et c'est là où je suis né parce que je suis normand au final. Je suis né à Pont-l'Évêque mais j'avais envie en effet de retrouver ce côté. J'avais envie que ça sente la figue. Voilà, tout est parti.
Ça sent plus la figue que le Pont-l'Évêque. Hein. Ça, je vous confirme.
J'avais envie de la figue, vous savez, bien sucrée à la fin de l'été là.
Ouais.
Il y en a un dans le jardin.
Mais fraîche.
Fraîche, ouais.
Elle dégouline un peu, elle colle les doigts.
Complètement fin.
Mais de toute façon, c'est un livre qui colle les doigts parce qu'on est vraiment. Bon, moi, je connais bien l'Espagne, on y est là.
On y est, hein.
De toute façon, il n'y avait pas de risque, mais quand des gens écrivent sur l'Espagne, etc., des fois, je me dis, bon, c'est un peu le touriste, hein, quand même. Mais là, pas du tout.
Ah bah ouais, tout est imprégné de choses que je vois quand je vais chez mon père, tout simplement. C'est le village près de Valence. Alors, je l'ai mis en Andalousie parce que j'avais envie de un peu brouiller les pistes. Mais c'est vrai que c'était ça, c'est la vie de village, c'est la place, c'est les fontaines, c'est le lavoir encore dans certains villages où on peut se retrouver et on voit ces femmes qui se retrouvent et qui parlent. Donc, j'avais envie de parler de toutes ces femmes.
Oui, et puis c'est pas un village fantasmé, c'est pas cette Espagne fantasmée, c'est une Espagne réelle encore aujourd'hui. Je pense que l'Andalousie permet encore d'avoir certains villages, on ne sait pas trop dans quel siècle on est. Hein.
Complètement, c'est ça. Moi, j'aime bien le petit café du matin, vers 11h aussi. Le
café cortado, con leche, corto.
Exactement. Et c'était ça que j'avais envie de retranscrire, traduire. J'aime bien aussi le sandwich là, de 11h, quand on prend la petite collation. Ça fait partie, je trouve que ça colle. Le jambon qui dégouline de gras, j'adore ça. La tomate sur le pain. Enfin, bref, je vois que ça y est.
Il est
parti, Fred. C'était ça que je voulais traduire.
Et c'est aussi pour ça que j'aimais votre livre. Hein.
C'est le voyage en Espagne, c'est essayer de traduire toutes ces ambiances, ces sentiments, c'est tout ce qu'on peut retrouver. Et justement, regarder tous ces gens qui sont là, qui vivent ensemble et qui vont pouvoir faire avancer l'héroïne.
Alors, ce que j'ai préféré dans toutes les choses que j'ai aimées dans ce très très beau roman, hein, Le Café des Rêves, qui vient de sortir chez IXO Éditions, c'est que vous montrez le contraste entre la vie moderne, technologique avec l'IA, l'intelligence artificielle et la vie traditionnelle du sud de l'Europe.
Exactement.
Vous êtes d'accord avec moi, on est vraiment. C'est pas qu'une petite histoire, on va dire. C'est pas qu'une petite histoire, mais il y a une vraie réflexion, je dirais presque philosophique, sur la vie, en fait.
Souvent, c'est mon cinquième roman, et souvent, je pars d'une situation un peu grave. Donc là, c'est Inès, elle est ingénieure à Berlin en intelligence artificielle, et elle a créé une intelligence artificielle qu'elle a appelée Eva, et qu'elle va éduquer à parler mieux qu'une humaine, jusqu'au jour où cette dite intelligence artificielle va la virer, tout simplement.
Mais là, c'est le début de l'histoire. On est à Berlin, et la pauvre Inès, qui est franco d'origine espagnole, elle est française, parisienne d'origine espagnole. Et là, il y a un jour, Eva qui lui dit... Et ça, j'ai beaucoup aimé ça, parce que ça va arriver, qui dit, et en fait, t'es super, mais j'ai plus besoin de toi maintenant, tu m'as créé.
Mais redondante. Je me suis amusé.
Oui, c'est ça, tu es redondante.
Je trouvais que le mot redondant était pas mal, parce que est-ce qu'on ne va pas tous être un petit peu redondants un jour? Alors...
Non, mais ce qui est terrible pour Eva, c'est qu'elle est brillante, elle est ingénieure, spécialisée dans l'intelligence artificielle, mais elle fabrique sa propre déchéance.
C'est ça. C'est là où ça devient complètement fou. C'est ça que je voulais traduire aussi. C'était, on crée des choses aujourd'hui, mais contre nous-mêmes. C'est ça que je voulais aussi exprimer à travers ce personnage, à travers cette première situation. Et puis, c'est le point de départ. C'est souvent, on part d'une situation très grave. Oui, elle se retrouve, elle est toute seule à Berlin. Son mec vient de la larguer en plus. Elle n'a plus rien à faire. Elle se dit, mais qui suis-je? Où vais-je? Comment avancer, comment faire? Et c'est là où elle se dit, tiens, en fait, j'ai une grand-mère en Espagne, ouais, que je n'ai pas vue depuis 20 ans. Pourquoi 20 ans?
C'est ce qu'on découvre.
Je ne vais pas tout dire.
Mais bon, on découvre, il y a une vraie histoire familiale que vous distillez au fur et à mesure de cette redécouverte de ses origines, qui est un thème très classique dans la littérature, mais
ça fait partie des passages obligés, un peu, parfois.
Bah oui,
ça fait du bien de revenir. Les romans d'apprentissage, là, j'invente rien. J'avais pas encore fait mon roman d'apprentissage, donc j'avais envie de...
48 ans, il était temps.
Il était temps,
hein, quand même.
Il était temps, Fred.
Alors, Pablo, on va vite passer sur le mec, parce qu'il est très connecté, mais il est déconnecté du monde aussi. C'est ça, le problème.
Ouais.
C'est qu'on voit que ces gens à Berlin sont tous très connectés technologiquement, mais humainement, il n'y a plus ce lien qui est celui qu'on va retrouver en Espagne.
Et puis Pablo, c'est l'amoureux d'Inès qui va la larguer, elle, en visio.
En visio.
Donc voilà, pourquoi pas. Hein. J'ai poussé le curseur jusqu'au
mais
bout.
Oui, mais
on y va.
C'est déjà arrivé.
Bah oui, ça arrive tous les jours.
Mais
même par téléphone, par SMS, par n'importe quoi. Oui, j'observe, je vois, j'entends. Et ça arrive à une copine.
Si tu reviens, j'arrête tout. C'est des SMS.
J'irai pas jusque-là, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que je vais pas chercher très très loin, hein. Je regarde autour de moi, j'analyse, j'essaie de traduire ça par des mots, par des personnages qui vont vivre ces expériences. Et puis là, Inès, c'était le personnage parfait pour exprimer ce désarroi numérique, amoureux.
En fait, tout comme le pape Léon XIV, hein, qui alerte sur les dangers de l'IA, c'est numéro un de vente de livres en France. Vraiment, c'est impressionnant. En France, en Espagne, je n'ai pas vu ailleurs, mais en tout cas, en France, en Espagne, c'est numéro un des ventes. Donc, il y a une vraie crainte de l'IA. Et là, vous l'expliquez. Alors, vous êtes c'est un peu un roman d'anticipation, mais d'anticipation très courte. On parle de quelques années, là, de ce qui va arriver.
On s'est tombé dessus, ça a déjà arrivé, hein. On le voit dans la presse, il y a des métiers qui sont supprimés parce qu'on peut corriger avec une intelligence artificielle, on n'a plus besoin de correcteurs, etc., etc. C'est vrai que c'est grave, quoi, c'est grave. Et donc, comment on fait quand on est comme ça, face au fait accompli, comment on fait? Eh bien, on essaye de survivre et peut-être de vivre, tout simplement. Et c'est là où le roman... Parce que c'est un roman quand même sympathique, non?
Mais oui, bien sûr, non, on a le temps de...
Pas que grave,
mais
j'ai l'impression
c'est intéressant. Mais en fait, tout l'intérêt de la redécouverte des origines et de la découverte de cette vie en Espagne prend du sens parce qu'il y a ce contraste avec Berlin, avec l'IA, avec ce monde. Et pour terminer sur l'IA, j'avais une invitée qui m'avait cité un jour quelqu'un que je ne connaissais pas et qui me disait, j'oublie le nom d'ailleurs, mais enfin je retiens la phrase, c'est ce qui compte, en disant que l'IA ne pourrait jamais devenir écrivain parce que l'IA n'a pas de blessure d'enfance. Je trouvais ça très beau.
Ah, très
mais je me demande si un jour l'IA ne sera pas capable de s'inventer de propres blessures d'enfance pour pouvoir créer. Ça, j'en sais rien. Mais... Bon, alors, Inès.
Ça a planté.
Si Inès, elle a 32
ans.
Elle a besoin de soutien.
Célibataire.
Elle se fait larguer. Elle a perdu son travail. mais elle ne peut pas trouver auprès de sa mère ce soutien parce que sa mère est morte. Elle était hôtesse de l'air.
Ouais.
Et ça, ce n'est pas Anita. Rien quand on connaît votre histoire de spécialiste des voyages, etc.
J'avoue que là, je me suis fait plaisir parce que j'aime bien l'objet livre. Il y a juste des lignes, c'est noir et blanc, mais j'aime bien glisser des choses régulièrement dans les romans. Et là, j'ai créé des cartes postales et grâce au graphiste de chez Ipsos.
C'est très réussi d'ailleurs.
Et chaque chapitre est entrecoupé d'une carte postale.
Pas forcément écrite par Inès. Et il y a plusieurs personnes s'expriment.
C'est une autre lecture. Il y a une autre lecture dans la lecture, j'aime bien ces romans dans le roman, Inception en fait.
Il y a même une adresse, c'est rue du Paradis.
C'est
bien quand même d'être écrivain.
C'est pas mal.
On peut s'inventer de belles adresses. Elle existe vraiment.
Elle existe. Hein, c'est ça, je me suis fait plaisir. Les destinations aussi, c'est des destinations où je suis allé. Elle est hôtesse de l'air, la maman, donc elle lui a envoyé pas mal de cartes postales. Et puis en fait, à travers ces cartes postales, ça va faire écho à d'autres histoires qui sont peut-être un peu traitées un peu rapidement dans le sujet. Mais ces cartes postales donnent un peu de relief et on
exactement
comprend, tout à fait.
Tout à fait.
Donc il y a plein de petites histoires dans l'histoire.
On comprend aussi pourquoi elle n'est plus là. Elle est morte, mais on va pas expliquer pourquoi.
Non, il faut pas.
Mais
et pourquoi elle l'a pas vue depuis 20 ans sa grand-mère Inès. Donc
voilà, ça va l'apprendre. Mais Rosita, la mère était une femme vraiment libre.
Ouais.
Elle n'était pas qu'hôtesse. C'était pas un hasard si elle était devenue hôtesse de l'air.
Ouais, puis j'aime bien le papa aussi qui est chercheur qui a donné l'envie à sa fille de devenir à son tour ingénieur et je le voyais bien dans sa chambre en fumée en train de un peu un père absent mais quand même la figure paternelle très présente aussi dans son esprit, parce qu'elle a un peu fait comme papa. Donc c'est intéressant, ça me plaisait bien aussi ce personnage du père d'Inès.
Oui, mais il n'est pas là, vraiment.
Non, mais il est quand même là. Ça peut être le rôle d'un père dans les années 80-90. Là aussi, il faut s'amuser à regarder ce qui se passe autour de nous. C'est peut-être un peu la réalité dans pas mal de familles. Hein. Le rôle du père dans les années 80, est-ce que c'est le rôle du père aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser.
Non, c'est pas le même rôle.
Exactement.
Puis il y a certains... On a vu quelques vidéos qui sont sorties des nouveaux papas modernes. Ça ne fait pas forcément envie non plus. Hein.
Non, après, voilà.
Ils font des groupes de parole pour dire que c'est compliqué d'être papa.
J'aime bien aussi.
À Paris, avec un vélo cargo.
Sur Instagram, vous avez des pères qui chantent avec les enfants dans les bras. J'adore ces vidéos. Ça me fait beaucoup rire.
C'est vrai que les choses ont évolué. Mais en fait, oui, c'est vrai que ce père, il est... il est quand même pas très présent. J'essaie de réfléchir un peu, voilà. Et
il a un
rôle. Il préfère plus, quand même.
Il a un rôle secondaire et dans le roman et dans la vie.
Dans la vie, exactement. Bon, passons à un personnage central. Hein. C'est Pilar.
Ah.
Pilar en espagnol, c'est le pilier.
Ouais.
En fait, c'est un prénom qui vient de. D'ailleurs, la sainte de l'Espagne, c'est Nuestra Señora del Pilar. Notre-Dame du Pilar, donc c'est un pilier d'église en fait, c'est un prénom...
Complètement, c'est le prénom d'une des cousines de mon père aussi, c'est pour ça.
Oui, mais c'est un prénom très commun en Espagne,
commun.
Mais c'est un pilier d'église.
Complètement.
C'est-à-dire que c'est un prénom qui est donné, c'est le socle.
C'est le socle.
Et c'est pas un hasard, et justement, c'est là aussi c'est très bien vu, elle a besoin d'un pilier sur lequel s'appuyer, et elle va chez sa grand-mère.
Ouais.
Alors, qui est cette Pilar ?
Sacrée bonne femme. J'aime bien dire que Pilar a des copines qui vont de 24 à 88 ans, des femmes pleines de vie, qui ne se cachent pas derrière leurs petites voix, qui fument, qui boivent, qui chantent, qui dansent et plus affinités. Elles sont libres. C'est des femmes...
On va parler des autres, mais Pilar... Vous n'allez pas vous échapper comme ça. Pilar, est-ce que vous avez une grand-mère comme ça aussi
ou... Ouais. Ouais, mais...
Parce qu'elle est quand même très très bien décrite.
Bah ouais, c'est...
Alors, ou vous êtes un immense écrivain, ce que je ne doute pas... Où vous avez pioché
pas
dans
mal inspiré aussi de,
pas mal inspiré de personnages
grand, et de plusieurs femmes en fait fortes autour de moi. J'aime bien les femmes âgées. Je trouve ça génial parce que on apprend, on découvre. Il y a la sagesse un peu bateau, mais souvent, je trouve que ces femmes qui, avec l'âge, on se dit, tiens, elles sont posées, et en fait,
Elles ont vécu,
et puis quand elles commencent à raconter leurs histoires, ça peut aller loin.
Et ça peut choquer par moments.
Mais
Pilar, revenons, je vous ramène sur Pilar.
Pilar, elle
a vécu en France.
Ouais. Ça aussi, c'est une réalité. Hein. Il y a pas mal de personnes. Alors, c'est les populations espagnoles, les populations portugaises qui retournent ensuite au pays, qui s'ennuient hein, quand elles sont n'importe où en France. La vie, c'est là-bas. Là aussi, c'est le côté viscéral.
Pilar, elle a vécu en France.
Ouais.
Son mari voulait rester en France.
Ouais.
Elle voulait rentrer en Espagne. Il rentre en Espagne. Mais là, le mari meurt.
Ouais.
Donc le grand-père d'Inès.
Et donc Pilar se retrouve seule dans ce village où elle a toutes ses copines. Hein, elles ont toutes différentes. Je me suis amusé à mettre pour chacune.
Bien sûr, ouais.
Il y en a une, elle a sa petite flasque de whisky à la ceinture. Il y en a une, elle met un peu trop de rouge à lèvres. Il y en a une qui fume en cachette derrière le figuier qui est dans le café. Et donc elles ont tout un trait commun, ou très particulier plutôt. Et le trait commun, c'est qu'elles sont toutes libres, ces femmes. Elles ont toutes eu des histoires de cul, hein, faut être honnête.
Bien sûr.
Et donc elle raconte ça avec
entre elles, en picolant un petit peu.
Elle s'appelle les sacrées sorcières. Elles font un club de sacrées sorcières.
Puis aussi, et puis elles boivent des cocktails un peu particuliers.
Elles ont des idées très très particulières sur comment vivre leur vie très très librement, tout en profitant aussi de la vie très librement.
Bien sûr. Bah, là aussi, on voit aussi que l'Espagne a aussi un petit peu évolué aussi.
Bah ouais.
Oui, parce que c'était pas.
C'est
important de le dire aussi.
Je trouve que l'Espagne est sur certains sujets bien plus en avance que la France, mais bien au niveau des mœurs, au niveau des...
Le mariage gay a été autorisé en Espagne bien avant la France.
Donc ça, il faut le rappeler. Donc ça fait du bien aussi de se dire ça.
Je vous propose un peu de lecture. Cher Clemente Ruiz, pourriez-vous nous lire, s'il vous plaît, la page 37 de votre roman ?
Deux fois par semaine, mercredi et samedi, la place se transforme en marché. Et souvent, parmi tout ça, Pilar, ma grand-mère, déambule, panier en osier à la main, critique tout le monde à voix haute tout en achetant ses tomates qui en prennent pour leur grade, elles aussi. Trop molles, trop chères, trop rouges. Mais elle les prend quand même, puis elle paie en faisant semblant d'être fauchée. Deux rangées de stands s'alignent sur la place, un marchand d'olives, une fromagère avec des bras solides, un apiculteur, une vieille espagnole qui vend des torchons brodés. Elle me fait un clin d'œil. Me reconnaît-elle ? Est-ce une amie de Pilar ? Peut-être. Ma grand-mère, j'en suis certaine, a déjà dû annoncer mon arrivée à tout le village, photo à l'appui, en précisant « La Niña revient, enfin ! Mais Dieu seul sait pour combien de temps ?» Un peu plus loin, il y a l'église, toute blanche, trapue, un peu tordue de profil, et juste derrière un lavoir, le lavoir, là où les femmes viennent laver leur linge, comme autrefois, et peut-être leurs souvenirs aussi. Je passe devant tout ça, c'est beau, ça me bouleverse. Un village, c'est un concentré de vie figé dans le temps, rien ne bouge, mais tout te saute au visage si tu n'y prends pas garde. Les vacances de ma jeunesse, c'était ça.
Les vacances de ma jeunesse, c'était ça, dit Inès. Mais est-ce que Gavins dit les vacances de ma jeunesse, c'était ça ?
Oui. Hein,
sans le vécu, on sent le plaisir de raconter ça.
Ah oui, j'aime bien je raconte comment elle part de chez elle en voiture la nuit, on se lève plus tôt parce qu'on va éviter les embouteillages.
Il y a le Sky.
Ouais.
On a connu ça,
le Sky des
voitures, des sièges de voiture.
Ouais. Et puis le café qui tombe, ça pue après dans la voiture pendant tout le trajet. Mais après, il y a le plaisir d'ouvrir la fenêtre quand on arrive. Et puis là, on en prend plein la tronche. Et puis on voit le village qui a apparaît, et ça c'est un vrai plaisir d'enfance.
Et donc vous partiez avec vos parents de Normandie ?
Ouais.
Et vous alliez jusqu'à
on peut aller en Espagne, ouais c'est ça.
Ça fait
une trotte, hein. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on
1500 km.
On partait tôt la nuit, on faisait parfois un stop, ça passait par Bordeaux souvent. Je l'ai refait avec mes enfants et ma femme, et c'était assez émouvant parce que j'ai revu des choses, j'ai pas retrouvé les endroits, mais ça m'a rappelé pas mal de choses, et je pense qu'il est pas né par hasard, ce livre.
Ah non, alors ça, vraiment, à chaque page, je me suis dit, il y a beaucoup, on ne se connaît pas bien, mais il y a beaucoup de vous, en tout cas, de l'image que vous pouvez donner. Parce que je pense qu'il y a des... Vous savez, c'est Aragon, hein, qui a écrit « Nul ne guérit de son enfance ».
Ah bah, complètement.
Et heureusement qu'on ne guérit pas de...
Sinon, on n'écrirait pas.
Ben non,
tout était là. Alors avec l'IA, l'IA n'aura pas de souvenirs, donc n'aura pas eu de blessure d'enfance, donc je pense que c'est ça qui crée.
C'est intéressant ce que vous venez de dire, que vous avez eu besoin de partager avec vos enfants ce que vous avez connu enfant.
Ah, je crois que c'est important parce que
ils ont besoin de racines aussi.
Bah,
ils sont d'où eux ? Ils sont de...
Ils sont nés à Paris, des bons petits Parisiens qui circulent à vélo et qui s'amusent dans les parcs parisiens. Ils auront peut-être d'autres envies plus tard, mais en tout cas c'est important, je pense, de montrer le chemin d'où on vient, qui on est et savoir qui sont leurs parents. C'est ça qui est bien aussi. Je pense que ça fait partie de l'éducation quelque part, sans le prédire, sans le voir naturellement, c'est juste, je crois que c'est important de montrer d'où on vient.
Alors vous venez de changer d'employeur après un quart de siècle, ce roman sort en même temps. Cela a du sens. Faites-vous vous-même le parallèle que ma petite tête a fait.
Alors tout s'est fait, mais alors, pas du tout de façon... rien n'était prévu, donc c'est ça qui est super. J'ai écrit le roman il y a plus d'un an. Je ne savais pas que je ne serais plus au Routard au mois d'avril. Mais le fait que...
Ah ben c'est quelques jours de différence.
Exactement, il est sorti 15 jours après avoir quitté cette belle maison où j'ai passé de très belles années. Et donc non, bah, oui, je change tout sauf de femme.
Ouais. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Enfin, le hasard ne frappe jamais par hasard, disait Jacques Prévert. Et, enfin, franchement, c'est quand même difficile.
La synchronicité.
Bah, oui,
enfin, plus que jamais. Mais tout se coordonne. Et puis, c'est pas plus mal. C'est bien aussi d'avoir des. Bah, ce que je dis dans mes romans, tout d'un coup, je le vis. C'est un peu original aussi. Je pars, je quitte, je vais vers une autre aventure. J'aime ça, justement, ne pas être. Alors, c'est vrai que 26 ans, j'ai eu le temps de m'habituer à ce que je faisais, mais justement non, je partais tout le temps, j'allais sur plein de territoires, dans plein de pays très différents, tout le temps, toute l'année, et donc tout d'un coup ça donne du relief à ce que j'écris, et j'aime ça, ça me plaît. Je pense que j'avais dit juste avant, j'avais écrit un petit essai, c'était l'appel du voyage, et j'aimais bien dire que le voyage commence en sortant de chez soi, on tourne tout le temps à gauche, bah, un jour on va tourner à droite, et puis l'aventure commence. Il ne faut pas aller très très loin, mais ça fait du bien de commencer autre chose. Et moi, je pense que vraiment, ça fait du bien de se renouveler, quoi, tout simplement. C'est pas acquis, hein, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir changer de vie.
Non.
C'est un mouvement, c'est une façon d'être, c'est intellectuellement, c'est fatigant aussi. Mais il faut, ça aide d'écrire. Ça permet de condenser un peu tout cela et de donner, essayer de donner un nouveau chemin.
Vous faites penser à cette chanson de Brel, l'aventure commence à l'aurore de chaque matin.
C'est
l'aventure commence à l'aurore. On est vraiment là. On va écouter un petit peu de musique, mais parlez-nous de ce café. Le café sans nom avec plein de post-it.
Ouais. Ben ça, c'est
il existe vraiment ?
Il existe vraiment. Alors là aussi, je suis allé au Vietnam pour le guide du Routard. Et en fait, j'ai découvert un café où tout le lieu était... il y avait plein de post-it partout, du sol au plafond. Et chacun venait déposer une pensée, un mot, une idée, etc. Donc il y en avait partout sur 3 étages. OK, The Post Coffee, c'est à Hanoï. 2 mois après, je vais à Lisbonne. Et là, je vois un café où on écrit au mur. Là, on écrit des pensées, il y en a partout. Mmh. Premier étage, j'ai écrit ça. J'ai écrit un petit mot moi aussi. Là aussi, on a une pensée, un mot, une idée. Et en fait, quand je réfléchissais à ce café, je me disais Inès, elle est dans l'intelligence artificielle sur son clavier toute la journée, il n'y a rien de concret. Là, elle se retrouve dans ce café, elle va écrire, elle voit tous ses post-it, elle dit mais c'est quoi ce truc ? Et Inès, elle a une envie, c'est d'écrire, c'est de faire des cartes postales, c'est de dessiner. Et donc, elle va commencer à dessiner les personnages qui sont dans ce café et elle va mettre ses cartes postales à disposition. Et chacun va écrire un mot. C'est un peu ce que j'ai vu dans ce café à Hanoï et dans ce restaurant à Lisbonne. Et chacun va écrire un mot, va piocher une carte dans une vieille boîte de Touronne. Ça aussi, ça.
Touronne. Touronne, c'est le nougat qu'on consomme surtout à Noël.
Et
à Noël.
J'ai pris la boîte, une vraie boîte. Hein, c'est une boîte que j'ai encore. Et donc, chacun met son petit mot dans cette boîte et puis tire une autre carte. Et puis parfois, ça crée des quiproquos. Chacun se regarde. Mais les copines de Pilar, elles se disent le petit nouveau là qui vient d'arriver dans le café qui a l'air très élégant, tout ça, il a mis un petit mot, est-ce que c'est pour moi ou pas. Le jeune serveur, un Français qui est là, Victor, qui rougit à chaque fois qu'il voit la copine loose d'Inès, il veut se dire oh là là, est-ce que c'est quand elle a écrit ça, est-ce que c'était pour moi, est-ce que c'est vraiment elle qui a écrit ça. Enfin bref, ça crée des quiproquos, ça crée du mouvement et ça crée de la vie tout simplement. Et il y a Ruben derrière le comptoir qui est patron.
On va en parler juste après la musique de ce Ruben. Allez, une petite respiration musicale. Comme à chaque invité, cher Gavin Stementer-Ruiz, j'ai demandé de choisir une petite chanson, un petit morceau. Qu'avez-vous choisi pour nous et pourquoi ?
Histoire d'amour, Historia de la mort, une version particulière. Je ne sais pas si vous l'avez trouvée, mais...
À votre avis.
Mais je sais que vous avis. Êtes tellement fort, Fred.
Anéja, oui.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para siempre sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. A adorarte para mí fue roridiar. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a vivir.
Historia de un amor, d'Agnès Jaoui. Toutes ces rencontres, vous l'avez évoqué, il y a Luz. Luz, c'est une fille du village, en fait, une qui n'est pas partie, en fait, et qui est, parce que beaucoup de les femmes, les amies de Pilar se plaignent que les enfants s'en vont. Luz, elle est restée là, ouais. Et elle veut faire un food truck de tapas poétique.
Ouais. Je me suis dit, elle a l'air complètement barrée, cette
Luz. Elle est...
Il a fallu que je lui crée une histoire complètement folle, tout aussi folle. Et donc oui, elle a une envie, c'est de créer un food truck. C'est, vous savez, ces gros vannes où on sert de la nourriture en se posant sur la place du village. Mais elle veut mettre des petits mots de poètes. Il y a du Pessoa, il y a d'autres auteurs.
Il y a du Lorca aussi, non ?
Oui, il y a du Lorca aussi. Et donc, mais j'étais en train de lire Pessoa.
Ah oui, c'est pour ça. Bah oui, mais oui.
J'étais en train de lire. Ça me plaisait.
Pessoa, grand poète portugais.
Mais ça me plaisait beaucoup de mettre du Pessoa parce que ça m'inspirait beaucoup à ce moment-là. Et puis, voilà, elle va peut-être réaliser son rêve. Je dis pas, mais
elle a. Après, il y a Ruben là qui apparaît.
Attends, il y a l'apiculteur avec.
Il y a l'apiculteur, oui, bien sûr.
L'apiculteur qui a des techniques de drague assez particulières. Mais j'ai une lectrice qui m'a dit, je ne vois plus un pot de miel de la même façon maintenant. Mais bon, passons.
Parce que l'invité précédent, Fabrice Capizano, qui a gagné le prix Aznavour des mots d'amour, a écrit un livre
avec
beaucoup de miel.
Donc je me dis,
je vais pas en parler cette fois-ci. On va pas, tu vois, parler d'apiculture à chaque épisode.
Mais très joli roman.
En fait, j'aime. Ah oui, c'est très beau, très très beau. Une salamandre à l'oreille.
Ouais.
Voilà, je rappelle que.
Lu avec un petit pot de miel d'ailleurs.
Ah ben, moi aussi je suis allé acheter du miel après avoir lu ce livre, qui vient de remporter le prix Aznavour des Bon Amour, dont RMC, Délivre RMC est le partenaire. J'ai bien aimé Ruben parce qu'à la page 221, vous dites il est le contraire d'un algorithme. Ça, j'ai beaucoup aimé cette phrase.
Bah ouais.
Ce type est le contraire d'un algorithme.
Il n'a pas les réseaux sociaux, il n'a rien, il est juste son torchon sur son épaule pour servir les cafés le matin. Il y en a plein avec comme ça. Des Ruben, il y en a beaucoup. Et de plus en plus, je trouve, ça c'est assez agréable. Et oui, j'avais envie d'un personnage un peu ténébreux, un peu qui va.
Et on va voir.
On va voir ce qui va se passer.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que on va voir si Inès reste ou repart. On ne va pas révéler le secret, mais il est clair qu'elle ne sera plus jamais la même.
Bah non.
Et c'est ça qui est merveilleux.
Et la boucle est bouclée à la fin, mais je ne vous dis pas pourquoi.
J'étais
tellement content de trouver ce prénom là. Je me suis dit, ah chouette.
C'est comme ça.
C'est comme ça.
C'est le moment du questionnaire de Fred. Cher Gavin Scamente-Ruiz, auteur de Le Café des Rêves, XO Édition, ça vient tout juste de sortir. Le questionnaire, c'est simple, ce sont des questions courtes, donc des réponses courtes, les plus courtes possibles. Où écrivez-vous ?
Partout.
Quand écrivez-vous ?
Le matin.
Avez-vous des superstitions ou des rites au moment de l'écriture ?
Aucun.
Écoutez-vous de la musique quand vous écrivez ?
Oui.
Quoi par exemple ?
Rhône, j'adore Rhône. Ou j'adore Florence and the Machine, ou alors là pour celui-là, Chapel Rhône. Féminine Rhône Moon.
D'accord, je ne connais aucun, mais bon, je vais chercher.
Rhône, c'est du son, c'est magnifique, c'est un français, il vient de sortir un nouvel album. Essayez.
Je suis un inculte, que voulez-vous ? Quel livre vous a-t-il le plus marqué enfant ?
Ah, enfant. La famille, tant mieux, part en voyage.
J'adore.
Enid Blyton.
Ah.
Il vivait dans une cahute, là, j'adorais.
Quel est le livre le plus important de votre vie ?
Le livre de ma mère, Albert Cohen.
Ah oui.
Ouais.
Quel livre voulez-vous écrire absolument ?
Le prochain.
Ouais. Êtes-vous un adepte de la lecture de plusieurs livres en même temps ?
Ah ouais, carrément. Ouais.
Dans votre travail aussi,
vous
êtes au courant de plein de choses. Quel livre pourriez-vous recommander à des parents qui veulent donner le goût de la lecture à leur enfant ?
Ça, c'est dur. Hein. J'essaie de réfléchir aux livres. Bah, les derniers mangas que mes fils sont en train de lire. Qu'est-ce que j'ai lu qu'est-ce qu'il pourrait lire La rivière à l'envers. De comment il s'appelle notre cher ami, j'ai oublié son nom, mais La rivière à l'envers, ça a plu aux deux, donc je conseille. Ou alors les livres de Timothée de Fombelle, que j'ai connu autrefois via son frère Jérémy, que j'embrasse.
Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui n'arrive plus à lire un roman en entier?
De lire ailleurs. C'est chez Folio, et c'est un roman, c'est ma libraire qui me l'a donné, j'étais en panne. Elle m'a dit, tu vas lire ça, c'est super.
Ailleurs, de qui?
De Dario Franceschini, c'est l'ancien ministre de la culture italienne.
D'accord.
Et c'est l'histoire d'un notaire qui est en train de décéder. Il a un fils unique et il lui dit, va chercher le carnet là-bas, là, au fond, dans le placard. Il y a 52 noms, ce sont tous tes frères et sœurs.
Ouh,
j'adore cette histoire.
Ça vous me donne envie. Merci, Gavin Skemeterus, vous restez avec nous, hein. Mais passons au deuxième chapitre de ce programme. Je suis ravi d'accueillir le journaliste, écrivain et homme de radio Jean-Michel Dian, qui nous vient avec son nouveau livre « Des proches en gros caractères sans S », publié au Cherche Midi. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Alors, je fais partie de la génération de ceux qui ont connu Pierre Desproges vivant, hein, et qui regrettent cet homme et cette période de liberté d'expression absolu, on peut le dire. Pour les plus jeunes, qui étaient Desproges?
Résumer Desproges, ce n'est pas forcément très simple, mais en deux, trois mots, c'est un personnage qui fait un peu partie de cette galaxie où il y avait Sagan. Enfin, je parle des gens qui sont dans l'écriture, qui tournent autour sans arrêt, qui passent à l'acte à un moment donné. Mais Desproges, c'est surtout l'incarnation d'une époque du politiquement incorrect, c'est-à-dire qu'au fond il ne se privait de rien, c'est un fou furieux de mots, c'était quelqu'un qui n'avait aucun surmoi, donc il s'exprimait avec tous les mots, il en inventait, c'était le roi des néologismes. Et au fond, Desproges, sa seule passion, c'est pas de dire des conneries, c'est d'écrire. Alors il en écrit, comme certains d'eux, comme il l'a fait, mais au départ, c'est un type qui dormait avec un dictionnaire à côté de lui, et qui tous les soirs avant de s'endormir, prenait un mot, et puis il en creusait le sens, il cherchait le sens, l'étymologie en fin de compte, il a fait ça toute sa vie.
Mais d'ailleurs lui-même se définissait, vous l'expliquez très bien dans votre livre, Desproges disait « je suis un humoriste, pas un comique ».
Oui, il fait vraiment la distinction.
Et alors, quelle est la distinction?
Il y en a une qui est assez palpable si on met en rapport l'existence au même moment de trois grands personnages, quand même. Le Luron, Coluche, lui, et peut-être un quatrième larron qui s'appelle Guy Bedos.
Oui.
Et la filiation de Desproges. Et du côté totalement de l'écriture, Coluche n'écrivait pas ses textes, il les picorait, mais il ne les écrivait pas. Bedos non plus, il prenait simplement le flux de l'actualité pour travailler avec et de manière admirable.
De Vos écrivait.
D'écrivait, mais De Vos vient du music hall, c'est pas du tout un personnage qui s'est installé comme étant un écrivain. Il a picoré lui aussi des mots, il en a fait une œuvre aussi, De Vos, c'est pas la question. Non, la différence, c'est que pour Desproges, c'est que l'humour, c'est méchant pour lui. C'est méchant, c'est quelque chose de noir.
Et c'est travaillé.
C'est totalement travaillé.
On n'est pas dans l'improvisation moderne.
Ça n'a jamais existé d'improviser avec Desproges. Même quand on pense, puisque moi j'ai eu la chance de le connaître.
Même quand il voit des femmes au premier rang et qu'il se moque, c'était prévu.
Évidemment, c'était écrit. C'est totalement écrit. C'est absolument extraordinaire la manière dont ce bonhomme a réussi à transformer de l'écrit en oral et de faire en sorte et de constater a posteriori que l'oral, c'est de l'écrit. Et il n'en bouge pas. Quand il rentre dans la salle, son premier spectacle au Théâtre Fontaine, la salle est pleine, évidemment, il était déjà connu. Et la fameuse première intervention qui est restée dans la légende, il paraît qu'il y a des juifs dans la salle. Tout le monde rit, mais tout le monde rit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sifflet,
Et il dit, pulsion. Vous pouvez rester.
Surtout, vous pouvez rester.
Là, on est dans le 15e degré.
Mais voilà, c'est ça le summum. Et la confusion entre comique et humour, Bon, elle n'est pas facile à absorber, mais plus on consomme du Desproges ou du Coluche, hein, on voit la différence.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
On voit la différence.
Donc, ce que vous avez fait, c'est une biographie. Je dirais une biographie intellectuelle de Desproges. Vous traitez des thèmes. C'est pas il est né tel de ta. Enfin, c'est pas linéaire. Quoi. Voilà, on est dans une œuvre, mais on apprend. Enfin, je dis que c'est une biographie dans le sens où c'est un personnage que vous sculptez. Absolument. Et que vous nous permettez de comprendre, pas dans un en partant d'un point du début de sa naissance, sa vie, sa mort. C'est plus compliqué que ça. C'est une biographie, un essai. C'est une réflexion sur le legs de Desproges.
Oui, absolument. Le mot sculpté me plaît bien, merci. Oui. Mais je rentre dans sa tête, je rentre dans sa vie. D'ailleurs, quand j'ai commencé mon travail de biographe sur Desproges, je suis parti avec mon van et je suis dans le village où il a passé son enfance. Je suis resté
dans
sur
le
la place de la mairie, à Chalut.
Et là, ça, c'est le Limousin.
Ouais, mais dans le Limousin.
D'ailleurs, il fait une blague là-dessus.
Mais il en fait plein sur le Limousin. Il passe sa vie à ça. Et j'avais demandé au maire de m'aider à trouver ou retrouver des copains d'école à Chalut, ville à l'époque, 1800 habitants. Hein. 800 habitants, pardon. Donc, vous voyez, c'était... Et je retrouve certains de ces personnages qui l'accompagnaient et qui lui... Et en fait, il lui servait de faire valoir, voilà. Mais il a fait l'andouille toute sa vie, quand même. Hein. Et il a fait son école du rire à Chalut, dans un petit village, avec des grands-parents qui le prenaient toujours pour un... Non pas un rigolo, mais un personnage, en gros, fou. Mais lui, il a eu très vite conscience que le monde... était absurde. Alors, il y a deux solutions hein, dans l'absurdité. Plus tard, ceux qui regardent et pensent l'absurdité, ou vous lisez Camus, vous pleurez, ou vous lisez Desproges et vous rigolez. Voilà, en gros, c'est ça. L'absurdité est traitée par Desproges, par le canal de l'humour, écrit, et il en a fait un feu d'artifice.
Est-ce que Desproges était un misanthrope ?
C'est très ambigu, parce qu'au fond, il a deux vies, Desproges. Hein. Il a sa vie professionnelle, amicale, et il a sa vie privée. C'était un coureur de jupons assez reconnu comme tel jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a essayé de prolonger son enfance le plus tard possible. Il ne voulait absolument pas travailler. Et par contre, il aimait. Et là-dessus, il ne s'est pas privé, il a eu raison. Puis un jour, il est tombé sur...
Hélène.
Sur Hélène, sa femme. Et là, il ne l'a pas quitté. Et Hélène est devenue...
Il ne l'a pas trompé non plus.
Ah ben ça, écoutez...
Non, mais parce qu'on sent dans le livre que Hélène, c'est le socle.
Et c'est elle qui tient la baraque.
Voilà, exactement. D'ailleurs, je pense que... Je crois que vous...
Oh, je le dis.
Vous l'écrivez comme ça. Elle tient la baraque.
Elle tient la baraque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un géomètre, un saltimbanque, c'est elle la géomètre.
Celle qui signe les contrats, celle qui négocie.
Elle qui donne son argent de poste à l'époque, oui. C'est vraiment... Ouais. C'est... Bon, la misogynie existe... en spectacle, en écriture, disons, et il met le paquet. Hein,
il met
le paquet.
C'est merveilleux. C'est une misogynie merveilleuse.
C'est incroyable. On en rit. Et au fond, qu'est-ce qui fait qu'on en rit ? C'est parce qu'il a du talent, c'est tout. Il n'a aucune excuse de ne pas traiter tous les sujets du monde. Les politiques, il se les prend par devant, par derrière. Bref, c'est terrible. Et au fond, il n'a pas un interdit. Il ne s'est jamais donné un interdit, ce gars. Ce type, quand même.
Non, et d'ailleurs, il attaque les puissants, mais il attaque les faibles aussi.
Ouais, les deux.
Ouais. Il se moque des personnes handicapées.
Ouais, les handicapés et tout. Ouais, dès qu'on est dans du victimisme quelque part, qu'est-ce qui est en embuscade ? C'est Desproges. Et dans tous les domaines. Mais à l'époque, le wokisme n'existait pas. Le politiquement...
La bien-pensance correct, n'existait pas.
Ça n'existait pas. Ça commençait juste.
Vous l'expliquez, on est dans les années 80, voilà. Parce qu'il meurt en 88, hein, c'est ça ?
En gros, c'est arrivé à ce moment-là. Ouais. Il est mort en 88.
Il y a des petits prémices, il y a des petits trucs. Voilà.
Mais lui, il va jusqu'au bout. C'est le dernier, c'est la dernière incarnation du politiquement incorrect. Il n'y en a pas eu d'autre après. S'il y a eu Blanche Gardin. C'est tout. Ouais. La seule qui a tenu la rampe pendant encore longtemps, c'est Blanche Gardin.
Avant de dévier
sur autre chose. Mais là, à l'époque, Desproges, s'il avait dit la même chose, il était capable d'attaquer.
Oui, mais il était capable de faire dans l'autre sens aussi.
Oui, mais c'est ça.
C'est ça.
Les deux.
Parce que Blanche Gardin attaque Israël, mais n'attaque pas les Palestiniens. Desproges, lui, il pouvait attaquer Israël, évidemment. Il pouvait attaquer les Palestiniens. C'était ça la différence. C'est-à-dire que Desproges n'avait pas un discours partisan.
Mais non, il est anarchiste. Hein. Bah, il est fondamentalement anarchiste.
C'est peut-être le mot, j'allais vous demander quelle est la définition, quelle est la signature de Desproges.
C'est
le vrai anarchiste.
C'est le vrai anarchiste. Voilà. Hein, avec une inspiration qui va du côté... quand on dit anarchiste, ce n'est pas Proudhon chez lui, hein, c'est autre chose. C'est Vialat, c'est Blondin, c'est tous ces types qui ont réussi à fédérer une haine féroce contre la société. Il y a du Bukowski chez lui.
Il y a une forme de désespoir.
Mais ouais, mais total, puisque le monde est absurde, donc qu'est-ce qu'on fait?
Mais en fait, comme il ne se disait pas de gauche et ne se présentait pas de gauche... On pouvait penser par moments, on disait qu'il était de droite, alors que ce n'était pas le cas. Mais on l'accusait un peu d'être de droite.
Oui, bien sûr.
Parce qu'on avait Guy Bedos, un talent immense, hein, merveilleux, Guy Bedos, ouvertement socialiste, qui allait soutenir Mitterrand, etc. Enfin, La Rose, Rocard avec Barbara, aussi. Et tout ça. Enfin, y avait, mais c'était merveilleux. Mais lui, Desproges, comme il n'était pas dans ce mouvement-là, on le pensait de droite, alors qu'il n'était pas de droite.
Et puis surtout,
c'était rien, lui.
Il y avait deux qualités ou deux atouts. A priori, c'est le fait qu'effectivement, que fondamentalement, c'est un nanar. Et la deuxième, c'est qu'il s'est emparé de l'écriture pour essayer de galvaniser cette absurdité et d'en faire un moment de rire, c'est tout. Voilà. Et la différence avec beaucoup d'humoristes, c'est qu'il a vraiment un talent, j'allais dire un génie.
Ah
mais
oui,
c'est
mais
vrai.
Bien sûr. Non, mais bien
c'est un
sûr.
Génie, ce mec.
C'est un génie. Alors, pour vraiment... Vous qui m'écoutez, qui nous écoutez, vous qui ne connaissez pas forcément Desproges, allez sur YouTube, La Minute Nécessaire de Monsieur Cyclopède.
Mmh. Ou Les Flagrants Délires.
Ou Les Flagrants Délires sur Europe 1, sur France Inter. Sur France Inter, Europe 1, c'était Coluche, avec un ton, avec des mots, avec... Moi, je me souviens, j'étais très jeune, il est l'invité de Drucker. Je ne sais plus si c'était Champs-Élysées ou Star, enfin, l'une des grandes émissions de samedi soir. Et là, c'est l'époque de l'émergence déjà de Jean-Marie Le Pen. Mm. Et il dit, je m'en souviens, samedi soir à 20h35 ou 20h40 ou 21h, à la télé française, il a plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue, que dans la queue de Le Pen quand il remue l'œil.
Ouais.
Je ne regarde pas mes notes parce que c'est resté là. J'avais 14 ans ou 15 ans quand il dit ça.
Non, mais
vous imaginez ça aujourd'hui ?
Des saillies comme ça, il y en a à la
extraordinaire.
Paix,
parce que c'était contre Le Pen, mais c'était contre d'autres aussi. Hein, c'était contre tout le monde.
Et
La Minute Nécessaire de M. Cyclopède qui était sur FR3 à 20h30. Hein, si
une minute 30 tous les soirs. Une minute 30 avec déjà le générique qui en bouffe 30, la moitié. Mais il sortait la connerie.
Le générique extraordinaire où il est dans une horloge avec son visage. Enfin,
Non, mais même des pics. Je pense à quand Lang est arrivé, il n'aimait pas trop Jack Lang. Et les constructions des grands travaux, vous savez, voilà, il y a Bastille. Et il dit, on n'a quand même pas pris la Bastille pour en faire un opéra. Ça dure une seconde et tout le monde se marre.
Mais bien sûr, il s'attaquait beaucoup aux cons, il détestait les cons. Et ça c'est exceptionnel. Donc je vous propose d'écouter un petit morceau de Desproges.
Il y a eu l'année de la femme, il y a eu l'année de l'enfant. 1982 a été désigné en haut lieu pour être l'année des cons.
C'est étonnant, non ?
Je me trouve ce soir chez le professeur Macaulay-Yuchard qui a été choisi en haut lieu, pour organiser et pour superviser cette année des cons. Alors, tout d'abord, professeur, merci de nous recevoir chez vous.
Je vous en prie.
Et alors, j'imagine que si vous avez été désigné pour assumer cette lourde responsabilité, cette mission importante, c'est que vous devez être vous-même très con.
N'exagérez rien, disons simplement que je suis un vrai con, ou sacrément con, si vous préférez.
Oui. La première question que tout le monde se pose, c'est, en un mot, où sont les cons ?
Bien que votre question ne soit pas particulièrement conne, je vais tâcher d'y répondre.
C'est merveilleux. Ah ouais. Ça, c'est 20h30 sur la télé publique.
Ouais.
Claude Pieplu. L'autre voix, c'est Claude
Pieplu. Bien sûr. Ouais.
Des Shadocks, qui étaient aussi... Vous parlez d'ailleurs des Shadocks, qui étaient une série...
C'était les premières virgules.
Les virgules un peu humoristiques. Voilà. La télévision.
On appelait ça Pastille, déjà.
Voilà, Pastille.
Mais ce cyclopète, c'était 12 millions de personnes, quand même.
Vous imaginez 12 millions ouais. Aujourd'hui, quand on fait 300 000 à la télé, on est content.
On est content.
Non,
et le petit rapporteur, quand on l'a connu. 50 ans pile aujourd'hui, il claque la porte. Il dit à Jacques Martin, moi je ne suis pas là pour me faire censurer.
Parce qu'il est censuré, parce que Jacques Martin le coupait au montage.
Voilà, ouais. Là, il s'est dit ciao les mecs. Il n'a pas été chercher son reste, hein. Il est parti.
Étonnant Nom était sa signature favorite hein, dans La Minute Nécessaire de Monsieur Cyclopède. Que pensez-vous du fait que Jean-Michel Apathy ose l'utiliser dans ses tweets, par exemple ? Moi, ça m'a toujours choqué de voir Jean-Michel Apathy, qui est un personnage de télévision, journaliste, qui termine ses tweets étonnant non. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne doit pas utiliser.
C'est vrai que c'est une réappropriation un peu facile, je suis d'accord.
Ouais. Ouais.
Étonnant non, c'est... Canard enchaîné hier sur le papier qu'ils ont fait sur le bouquin, c'était en gros titre, étonnant, non ?
Oui, voilà, c'est lui. C'est
une signature, c'est incroyable.
Et on ne doit pas voler ça.
Non, voilà, c'est vrai.
Petite réflexion. Donc il y a eu des proches de la scène, celui de la télé et celui de la radio. Donc lequel préférez-vous des trois ?
Celui de l'écrit, hein, sans problème. Celui qui écrit. C'est-à-dire que...
Bah, celui qui est à la base des trois, en fait.
Et les meilleures belles écritures de Desproges au summum de sa gloire, si je puis dire, c'est quand même le tribunal des flagrants délits. Où là, effectivement, vous aviez Claude Villers, Louis Régaud et lui en roi qui venaient savonner, attaquer frontalement toutes les grandes figures de l'époque. C'est-à-dire, mais sans aucun complexe. Et tout le monde riait. La France arrêtait de bosser à midi. Écoutez dans la radio, dans la voiture, les flagrants délires.
Pour terminer, je voudrais vous lire, cher... Jean-Michel Dian, Desproges, en gros caractères, qui vient de sortir au Cherche Midi. Pour une poignée d'académiciens comme Alain Decaux, Éric Orsenna ou Jean d'Ormesson, Desproges est l'ambassadeur canaille de cette langue française pratiquée par plus de 300 millions de francophones dans le monde. Elle est une parfaite incarnation épicurienne de cette raison de vivre qui consiste à élever une bouteille de Saint-Émilion millésimé ou un riz de veau lyonnais à hauteur de l'humour, de la littérature ou du rire. Bernard Pivot, qu'il admirait tant, n'aurait pas dit mieux. Quel autre humoriste de ces années-là peut se vanter d'avoir frayé au cœur de la jouissance, de l'exigence et de l'insouciance avec autant de constance ? Merci beaucoup, Jean-Michel Dian. Je vous recommande vraiment Desproges en gros caractères au Cherche Midi. Passons à notre troisième invité, troisième partie de cette émission. J'accueille maintenant le journaliste, écrivain et sexologue clinicien Luc Biec, qui nous vient avec Vilain Gaillard, un très beau et très étonnant recueil de poèmes érotiques gays du 19e et 20e siècle, livre qui vient de paraître chez la Musardine. Bonjour Luc.
Bonjour Fred.
Pour commencer, j'aimerais vous faire écouter cela.
Esta visión del Turia que te mando, de dulces ojos y de blanca pluma. Sobre laurel de Grecia vierte y suma, llama lenta de amor, no estoy parando.
C'est un extrait des sonnets de l'amour obscur de Federico Garcia Lorca qui aurait eu sa place dans votre recueil, chanté par mon copain Amancio Parada. En fait, les sonnets de l'amour obscur ont été découverts dans les années 80. Ils étaient inconnus. Lorca est mort pendant la guerre civile, a été assassiné. Et c'est le grand journaliste, le grand journal monarchiste, conservateur, très catholique, ABC, qui publie pour la première fois ces poèmes, sont les grands poèmes gays de Lorca. Et donc, en lisant votre magnifique recueil, j'ai pensé à Lorca et j'ai pensé à ces sonnets. Pourquoi ce recueil, Luc Biec ?
Parce que je trouve qu'il y a assez peu de place pour la poésie en général aujourd'hui, que la poésie érotique gay est assez peu valorisée, qu'on a des chefs-d'œuvre méconnus. Et aussi parce qu'en tant que grand lecteur de poésie, j'avais l'impression qu'il fallait proposer autre chose. Vous avez cité Fred tout à l'heure, Aragon et Prévert, qui sont un peu dans mon panthéon. Mais moi, à l'école, j'ai un peu subi de la poésie du type Émile Verhaeren, qui nous décrivait le plat pays où je suis né. Et il a fallu longtemps pour que je découvre la poésie dans tout ce qu'elle pouvait avoir de charnel, de sensuel, de friponne, de drôle aussi. D'amoureuse, et puis aussi, surtout parce que j'avais créé un spectacle autour de ces poèmes et que c'est l'éloge du désir, en fait.
Est-ce que la poésie érotique gay a une particularité ou elle peut s'inscrire aussi dans une poésie érotique hétéro, ou est-ce qu'elle a une signature particulière ?
Je ne pense pas qu'il y ait de signature particulière, mais je pense qu'il y a des poèmes extrêmement connus, comme le sonnet du trou du cul de Rimbaud et Verlaine, qui est un pastiche, on le sait assez peu. À l'époque, il voulait répondre à un poète, un parnassien, qui avait écrit un poème sur toutes les parties du corps de la femme, sauf sur celui-là. Donc un soir, avec des amis, en picolant, en fumant des pétards, ils ont trouvé amusant...
En buvant de l'absinthe.
En buvant de l'absinthe. La plupart des auteurs cités buvaient pas mal d'absinthe, d'ailleurs. Ils ont décidé qu'il fallait contrecarrer ça et faire autre chose. Donc au départ, c'était quand même une énorme plaisanterie. Et il y a une énorme diversité d'auteurs. Il y a 21 auteurs et 38 poèmes. On a certains qui sont extrêmement connus et d'autres qui sont complètement oubliés. Et on a aussi d'énormes surprises. On a par exemple Ange de la Chabossière, qui est l'auteur, on le sait assez peu, du Catéchisme républicain, qui est un hymne laïque qui explique qu'il faut créer une constitution, qui a été écrit en 1794 et qui écrivait de magnifiques poésies érotiques. Donc il y a énormément d'auteurs extrêmement variés qui ont écrit des poésies érotiques. On ne peut pas forcément en conclure grand-chose sur leur pratique ou leur goût ou leur vie personnelle, mais souvent, il y a beaucoup d'humour. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on trouve peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est fripon, coquin, polisson, il y a une énorme variété, et puis évidemment, parfois, très, très romantique.
Comment avez-vous choisi les poèmes ? Vos goûts personnels ou il y avait une ligne directrice un peu didactique ?
Au départ, comme le spectacle a été créé dans un cabaret qui s'appelle Chez Olympe et qui est à Pantin, il fallait que ce soit des spectacles qui soient jouables.
À Pantin, par... dans la région parisienne.
Hein, oui, tout préciser. À fait. Il fallait des textes qui soient jouables par les deux comédiens avec lesquels j'avais souhaité travailler. L'un s'appelle Vincent Vilain et l'autre Vincent Gaillard, d'où le titre du...
Vilain Gaillard.
De la pièce et du livre. C'est leurs véritables identités. J'ai d'abord trouvé qu'il fallait qu'ils racontent une histoire et qu'ils soient agréables à entendre lors d'une lecture. C'est pour ça qu'il y a des poèmes de Feydeau qui sont particulièrement théâtraux avec beaucoup de rythme et il fallait que les poèmes aient du rythme. Et j'ai aussi éliminé ce qui est très très présent dans la littérature homosexuelle en général, la honte et l'autoflagellation. Moi, quand j'ai découvert la littérature avec Yves Navarre, qui avait eu le prix Goncourt, je me suis retrouvé à la vingtaine confronté à un tas d'auteurs qui se flagellaient en permanence sans que ça n'ait rien d'érotique. Donc, je voulais que ce soit joyeux, en fait.
Il y a des poètes très connus, hein, vous en avez parlé. Vous citez Apollinaire, Lamartine, Rimbaud et d'autres moins connus comme Albert Glatigny ou Ange de la Chabossière dont vous venez de parler. Moi, je ne les connaissais pas. Hein. Enfin, Glatigny, oui, mais pas la Chabossière. C'est une volonté de mélanger ça, de se servir quand même de gens très connus pour attirer et puis quand même d'en profiter pour faire découvrir d'autres auteurs.
Alors déjà, attirer sur la poésie aujourd'hui, ce n'est pas évident. En fait, je crois qu'il y avait quand même une volonté de remettre au goût du jour un poète comme Jean Lorrain, qui était assumé, qui était visible. On nous décrit la question du coming out et de fait d'évoquer sa vie sexuelle comme quelque chose de récent. Il y a des gens qui étaient extrêmement visibles. Il faut rappeler que Rimbaud et Verlaine vivaient en couple et ne se cachaient absolument pas.
On leur a reproché d'ailleurs.
Bien sûr, ça a été une vie extrêmement complexe, qui d'ailleurs a passionné beaucoup de chercheurs. Après, on a des gens comme Raoul Ponchon, qui était plus dans l'école du chansonnier et qui écrivait pour des quotidiens. À l'époque, il y avait des dizaines de quotidiens qui étaient extrêmement vendus.
Donc c'est quelle époque ?
On est au début du 20e, en fait. On est au début du 20e et il y a eu une sélection évidemment par mes goûts personnels et après il y a des poètes qui sont aussi peut-être moins connus du grand public comme Constantin Cavafis qui est grec et qui avait la particularité de considérer que la poésie devait être distribuée et qui imprimait des pages pour les distribuer tout simplement. Donc il y avait effectivement des gens aussi qui se battaient un peu pour diffuser leurs œuvres. Et la plupart de ces œuvres-là ont été éditées sous le manteau, en Suisse et en Belgique. Parfois même juste imprimées, parce qu'il n'y avait pas vraiment un travail d'éditeur, pas systématiquement.
Pourquoi n'y a-t-il pas de poème de Jean Genet ? Parce que ça, j'étais un peu surpris en lisant votre recueil.
C'est une interrogation légitime. Il est né bien
parce
après.
Parce que le Condamné à mort, enfin, c'est un recueil magnifique. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, ça avait été mis en musique par
Étienne Dao. Et il y a eu un spectacle avec Jeanne Moreau qui était donné en Avignon. Ouais. Il est né en 1910, il est mort en 1986. Ses premiers textes sont parus en 43, ils ont été interdits parce que pornographique. Et ce qu'il a d'abord publié, c'est Notre-Dame des Fleurs, qui est un roman. Donc nous, on est vraiment sur la génération d'avant. On est des gens sur des œuvres et des auteurs qui sont nés au 19e, voire au 18e.
D'accord.
Certains.
Donc ce n'est pas un rejet de Genet, c'est simplement
absolument pas.
Un choix éditorial, on va dire.
C'est pas un rejet de la modernité. Il y a des poètes contemporains comme Florian Bardou, dont j'aime beaucoup le travail, c'est absolument pas... C'est qu'à un moment donné, il faut se limiter, et il faut aussi dire que les poèmes de Jean Genet ont été beaucoup, beaucoup repris, comme on l'a évoqué, et que là, il y a des poèmes qu'on découvre complètement, qui ont été très, très peu publiés, et ça a été parfois très long, très complexe de les retrouver.
Je me souviens d'une déclaration de Léo Ferré, mon maître à penser, qui se plaignait déjà il y a 35 ou 40 ans qu'on ne lisait plus de poésie en France. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le pauvre.
Et je suis surpris, par d'abord de voir le nombre de poètes contemporains qui publient des livres aujourd'hui. Je trouve qu'il y a des maisons d'édition qui sont consacrées à la poésie.
Ils sont courageuses.
La Musardine fait un travail assez exceptionnel. La Musardine, c'est une maison d'édition qui a beaucoup publié des gens qui ont travaillé sur la censure. La censure des textes érotiques, notamment Jean-Jacques Pauvert, qui a beaucoup publié à la Musardine. Donc, je pense qu'il y a véritablement un retour. On voit des festivals de poésie qui apparaissent un peu partout. Nous, quand on fait notre spectacle, on a eu un petit peu de monde. C'est quelque chose qui est en train de revenir parce que c'est l'éloge du sensible. C'est des poèmes qui sont en général là, dans ce recueil, faciles à lire. C'est pour ça que moi, j'ai choisi de ne pas faire des poèmes du XVe siècle où on se retrouve avec de l'ancien français et une vraie complexité de lecture. C'est très bien quand on est chercheur, qu'on a les codes, mais ce n'était pas ma volonté. Ma volonté est que ce soit accessible au plus grand nombre.
Et c'est réussi, très réussi. Merci beaucoup Luc Biec.
Merci,
Vilain
Fred.
Gaillard, recueil de poèmes érotiques gays des 19e et 20e siècles. C'est à retrouver aux éditions de la Musardine. En plus, la couverture est très belle.
Oui, elle est de Cyril Oliviero. Elle est vraiment très belle. C'est un très bon graphiste.
Ouais,
je le remercie.
C'est magnifique. C'est déjà la fin du 44e, voyez, de notre podcast, de votre podcast des livres RMC. Merci infiniment, Gavin Skementerhuis.
Merci à vous.
Bravo pour votre roman Le Café des Rêves qui vient de sortir chez XO Éditions. Et merci Jean-Michel Djian, Des Proches en gros caractères qui vient de sortir au Cherche Midi. Ce podcast est à écouter et réécouter à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr et sur l'appli RMC. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux sociaux, à laisser des notes et des commentaires et surtout abonnez-vous. Et l'on se quitte avec un peu de musique d'Astor Piazzolla. Et allez, quelques vers d'Edmond Haraucourt, l'un des poètes du recueil de Luc Biec. Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. On laisse un peu de soi-même en toute heure et dans tout lieu. C'est toujours le deuil d'un vœu, le dernier vers d'un poème. Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. Et l'on part et c'est un jeu, et jusqu'à l'adieu suprême, c'est son âme que l'on sème à chaque adieu. Partir, c'est mourir un peu.
Des livres RMC.